Dan. La promesse du dimanche suivant s'est dégonflée. Une journée où tous les tons de gris complotaient pour faire un tableau sombre. Le soleil et l'animation de l'autre dimanche étaient aussi enfermés dans leurs souvenirs que la lettre dans sa boîte. La grand-mère d'Ernest était aussi grise que le ciel, et Ernest avait du mal à contenir les désirs qui s'infiltraient dans ses rêves éveillés. Néanmoins, la journée se passa, minute par minute, déroulant l'histoire écrite bien avant la naissance d'Ernest. Ils prirent en silence un déjeuner qui ne méritait pas de commentaires. Rien ne vint ébranler les murs qui cachaient cette vie qui n'en était pas une. Les mots n'avaient pas de nageoire au fond de la mer noire des pensées perdues. La lettre, sortie, aérée, resta aussi hermétique. Que voulait-il qu'elle dise ? La lettre même avait perdu sa saveur auprès d'Ernest. Qu'est-ce qu'elle allait changer ? Ce n'était qu'une énigme de plus dans cette maison aux mille voiles. Ernest avait même cessé de chercher des indices sur son père. Heureusement que les lundis surviennent régulièrement, fidèles, fiables, et avec le secours de l'ami lundi arrive l'école, qui permettait à Ernest de s'activer un peu plus. Il n'avait jamais fait partie d'une bande, il n'avait jamais joué avec les garçons de sa classe, il n'était que la proie de l'amour des filles. On ne lui demandait rien, à tel point que même le clan des durs s'écartait de lui par respect, par crainte. Mais, depuis l'arrivée de Victoire, Ernest semblait moins intouchable, et on commençait à lui adresser la parole. À la sortie des classes de ce lundi hivernal, Dan et Simon attendaient Victoire devant l'école dans le minibus familial.
« On est de corvée pour les courses aujourd'hui. Il faut que tu nous aides, Ernest. On va à Bercy. »
« Bien volontiers, mais il faut que je prévienne grand-mère. »«
On va passer devant chez toi, et tu iras vite lui dire. »
Ernest n'était encore jamais monté dans une voiture, et rouler était un tout nouvel amusement pour lui. Il n'était encore jamais entré à l'intérieur du moindre petit magasin, et cet hypermarché lui sembla être une autre planète. Dan lui donna une pièce de 10 francs pour le chariot. Ernest observa attentivement les manœuvres de Victoire, Dan et Simon. Victoire lui expliqua. « Il nous faut 4 chariots. On représente l'équivalent de 4 familles. Tu piges ?»«
Voici ta liste », lui dit Dan en lui fournissant une feuille couverte de noms d'articles. « Rendez-vous à la caisse dans 45 minutes. »
Ernest avait déjà la tête qui tournait. Mais il aurait aimé passer des heures à étudier les objets, les boîtes, les paquets, les sacs, les chiffres qui indiquaient le prix des choses. Il avait déjà visité un musée avec sa classe, mais ce musée-ci était encore plus passionnant. Il y avait tant à voir, mais il fallait faire vite. 3 cartons de 6 briques de lait demi-écrémées, 6 douzaines d'œufs, 2 paquets de couches-culottes. Il s'y mit comme il faisait tout, avec diligence et application. Son efficacité, même dans ce pays étranger qu'était l'hypermarché, le poussait à arriver en bas de sa liste avant la fin du délai. Il se dirigea vers le rayon « librairie » comme vers une terre connue. Appuyé sur son chariot, il lisait les titres sur les couvertures multicolores perchées sur leur présentoir. Ses yeux s'envolaient de livre en livre, et c'est seulement le choc avec un autre chariot qui le ramena sur terre. Encore heureux que cet était le chariot de Dan, débordant des produits les plus divers. Dan ramassa les paquets de céréales, les boîtes de maïs, les sous-vêtements tombés, en disant distraitement « Rendez-vous comme prévu !» Ernest poussa son chariot vers la table centrale, où les livres vedettes étaient empilés. Là, il fut attiré, non pas par un titre, mais par le nom d'un auteur. Ses yeux transperçaient la couverture. Paralysé sur place, il le fixa jusqu'à ce qu'il décide de saisir le volume. C'était certainement un endroit inattendu pour faire cette rencontre. Un jour où il ne demandait rien à personne, rien à la vie, sauf de se lever, d'aller et venir, de s'asseoir, de manger, de marcher, d'écrire, de lire et de se coucher. Il le tournait et le retournait, lisait la 4e de couverture sans la lire, feuilletait du début à la fin, puis de la fin au début. Il le frotta contre son front, le serra contre sa poitrine,
sans se rendre compte que ce n'était que du papier, sans imaginer qu'il n'avait pas de quoi l'acheter. L'acheter n'était même pas nécessaire. Ce livre, de toute façon, lui appartenait. Il se laissa glisser par terre pour contempler le livre à son aise. C'est ainsi que Victoire le trouva. Complètement essoufflée et affolée, elle dit « Ça fait 10 minutes qu'on t'attend. Tu veux empêcher la famille Montardan de manger ce soir ou quoi ?» Ernest leva la tête, mais sans plus. Il savait à peine où il était et ce qu'elle lui voulait. Son chariot s'était égaré, poussé à gauche et à droite par les consommateurs pressés. Victoire lui tendit ses deux bras. « Attrape !» lui dit-elle, comme à un bébé en essayant de le soulever. Ernest se réveilla brusquement de sa confusion et mit le livre sous les yeux de Victoire. Victoire, qui s'intéressait plus au titre, lut à voix haute. « La Grande Guerre, les leçons des pères. » Elle ne fit pas attention à l'auteur. « Toi et les guerres, Ernest, il y a autre chose dans la vie que les guerres. Viens, mes frères pères de patience. » Ernest agrippa le livre, empoigna le chariot qu'il rattrapa au bout du rayon papeterie et courut avec Victoire vers la caisse 26, comme s'il avait des patins à roulettes. Simon était en train de transvaser les articles du chariot au tapis de la caisse, et Dan du tapis au chariot. Victoire ajouta la marchandise d'Ernest. Les clients derrière eux s'impatientèrent quand le trio introduisit Ernest en passant devant eux. Victoire expliqua simplement. « C'est la première fois qu'il fait les courses. » Pour l'excuser, elle ajouta. « Il est très bon élève, mais il est nul en shopping. » Dan paya la somme astronomique du contenu des 4 chariots. « Vous avez un restaurant ?» lui demanda la caissière. « Non. Si vous voulez vraiment savoir, je suis l'aîné de 13 frères et une sœur. Et, par une étrange nécessité, tout ce monde mange au moins 3 fois par jour. » « Vous plaisantez ?» lui dit la caissière. « Non, pas du tout. » Quand mes parents m'ont vu, si beau, si intelligent, si parfait, ils ont dit « Il faut en faire 13 autres comme lui. » Malheureusement, les autres sont un peu ratés, dit-il en montrant du doigt Victoire et Simon. La caissière, jolie rousse, ultra maquillée, était captivée par l'orateur. Dan, loin d'être parfaitement beau, était plutôt petit, gros, avec le front qui se dégarnissait prématurément. Ça lui donnait un air plus vieux que ses 22 ans. N'empêche qu'il avait beaucoup de succès auprès des femmes, qui aimaient son humeur, sa chaleur, son charme. Mais lui, il n'aimait que Mylène, son amie étudiante en maîtrise d'histoire, comme lui. Quand le dernier sac fut casé dans le chariot, Ernest suivit le cortège, et la caissière lui cria « Hé, le livre, tu comptes le voler ou quoi ?» Ernest regarda Victoire, qui savait qu'il n'avait pas un centime. Dan prit le livre et lut le nom de l'auteur.
« Gaspard Morlès. C'est un parent à toi ?»«
C'est mon père, je pense. »«
Il est très connu comme type. Il est sur ma bibliographie de maîtrise. Ça m'intéresse. Je vais l'acheter et je te le prêterai. »
Doit-on vraiment acheter le livre de son propre père ? Était-ce son père ? Pouvait-il y avoir plusieurs Gaspard Morlès ? Ernest, qui jusque-là n'avait pas vraiment eu de père, pouvait-il, d'un coup, se dénicher un père célèbre ? Il était tellement occupé à se poser des questions qu'il ne dit rien en transférant les paquets du chariot au coffre du minibus et du minibus à l'appartement des Montardan.
« Tu restes dîner ?»
lui demanda Dan, chargé du repas du lundi. « Non, merci. Je vais partir. Grand-mère... » mais il n'arrivait pas à décoller avant d'avoir pu formuler sa question. « Dis-moi, Dan, comment fait-on pour trouver l'adresse d'un auteur ?»«
Tu écris à l'éditeur, tu vois. Celui qui est marqué en bas de la couverture. Tiens, tu veux le lire en premier ?»«
Oui, merci, si tu veux, » dit Ernest, essayant de cacher sa précipitation en rangeant le livre dans son cartable, loin des yeux de sa grand-mère. « Loin des yeux ?» Loin du cœur ?